biologiste François Gros est membre de l'Académie des sciences depuis le 26 mars 1979 dans la section biologie moléculaire et cellulaire génomique. Il a été secrétaire perpétuel de cette académie entre 1991 et 2000 et depuis 2001 est secrétaire perpétuel honoraire. Invité par le secrétaire perpétuel Arnaud Dautrive à s'exprimer devant leurs confrères de l'Académie des Beaux-Arts, François Gros a prononcé, le 7 décembre 2011, une communication intitulée « La biologie, l'art et les molécules ». Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de cette séance publique qui s'est déroulée en grande salle des séances, le lieu habituel et magnifique des séances hebdomadaires de ces deux académies au sein de l'Institut de France. Dans cette communication, il rappelle la passion et la pratique de certains scientifiques pour les arts, tels que Louis Pasteur ou Jacques Monod. Il évoque pour nous ces familles de musiciens, celles bien connues de Jean-Sébastien Bach, ou de peintres établissant des dynasties d'artistes. Le scientifique s'interroge. Est-ce que la propension à l'art, le sentiment artistique, le goût, la sensibilité au beau sont génétiquement déterminés? Connaissons-nous des gènes qui peuvent jouer un rôle important? Retrouvons François Gros en séance, invité à l'Académie des Beaux-Arts.
Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un honneur tout à fait exceptionnel de pouvoir parler devant un cénacle aussi impressionnant de femmes et d'hommes qui sont totalement dévoué, consacré à l'art et à la pratique de l'art, et en fait à sa culture. Mais face au titre même de ma conférence, c'est-à-dire la biologie, l'art et les molécules, vous n'êtes certainement pas sans vous demander ce que viennent faire ici la biologie, les biologistes et de surcroît les molécules dans cet environnement d'artistes. Car en fait, je ne suis, comme vous le savez, ni peintre, ni musicien, ni sculpteur, ni graveur, ni architecte, ni photographe, ni même chroniqueur artistique. Et sachez bien que la question, je me la suis posée moi-même, mais lorsque mon éminent confrère Arnaud Dautrive m'a demandé de faire une conférence ici même, je me suis évidemment posé beaucoup de questions, j'ai combattu quelque peu son souhait et finalement je m'y suis rangé, sans doute, pensais-je, parce que une véritable complicité dans l'amitié s'est établie, s'est nouée, déjà depuis près d'une vingtaine d'années, à l'époque où je suis entré en fonction de secrétaire perpétuel ici. Et j'ai pensé que la science avait peut-être à ses yeux cette espèce de parfum d'aventure que le peintre de la marine et l'explorateur qu'il a été, je crois, pendant très longtemps, devait certainement avoir un écho important à ses yeux. Donc, il n'est pas rare non plus, je dois dire, que dans cette maison à l'Institut de France, la transversalité des réflexions, des cultures, essaye de prévaloir au maximum. Les 5 académies qui animent cet important parlement, en quelque sorte, ne sont pas sans établir régulièrement des contacts, et il n'est pas rare que nous voyons justement, le monsieur Dautrive participait d'ailleurs aux séances de l'Académie des sciences de manière d'ailleurs très active. Pourtant, de là à demander une conférence à un biologiste s'intéressant aux molécules, il fallait le faire. Le secrétaire perpétuel Dautrive a sans doute cherché à savoir si j'avais quelques messages à délivrer qui puissent être d'intérêt pour la communauté des artistes. La réponse est que en réalité, moi-même, je n'en suis pas tout à fait sûr et ce sera à vous, mesdames et messieurs, d'en juger. Il est vrai que si je suis un scientifique et un vieux scientifique, puisque je crois avoir commencé à travailler à l'Institut Pasteur il y a plus de 65 ans, je n'en suis pas moins extrêmement sensible aux choses de l'art et je dois dire aux artistes eux-mêmes. En effet, il se trouve qu'un mien parent, par un second mariage de ma mère, en quelque sorte donc, qui était devenu mon beau-père, était un artiste peintre, élève de Maurice Denis, ce peintre assez particulier, plutôt peintre et décorateur en même temps. C'était donc un peintre du genre, comme l'on dit, figuratif, qui s'était fait connaître d'ailleurs avec un certain succès avant la dernière guerre, dans de nombreux salons, dans des expositions, dans des galeries diverses. Et il affectionnait en particulier, c'est à cela que je voulais en venir, cette charmante petite ville qui est en quelque sorte un bijou dans le Calvados, qu'on appelle le port ou la ville d'Honfleur, où se sont d'ailleurs éclos en quelque sorte un bon nombre de personnes et qui ont joué un rôle très important dans tous les domaines. Si je songe à Alphonse Allais, Lucie de la rue Mardru, Henri de Régnier, Éric Satie, Albert Sorel, sans parler bien entendu du peintre de la région qui s'appelait Boudin, comme chacun sait. Adolescent, j'ai vécu donc quelques temps avec ma mère et mon beau-père dans cette petite et charmante ville tout à fait étonnante. C'est une ville qui a été probablement surtout établie et conçue au XVIe siècle et au XVIIe surtout, puisque c'est Duquesne qui en a dessiné le bassin, et on sait que Champlain est parti de là pour ses fameuses expéditions qui lui ont fait découvrir l'embouchure du Saint-Laurent. Donc j'ai passé là une grande partie de mon adolescence, j'avais 13 ou 14 ans. J'ai même travaillé, puisque j'y ai fait, comme on disait à l'époque, mes humanités au collège Honfleur. C'est dire que je connaissais tous les méandres de cette ville et qui m'avait beaucoup touché, et bien entendu l'environnement qui l'accompagnait. Alors j'accompagnais très souvent précisément mon beau-père peintre qui emmenait, comme on disait à l'époque, sa boîte à pouces pour essayer de saisir quelques effets qui soient de nature à l'inspirer aussi bien au plan de la couleur que du dessin. Et j'étais amené à connaître ainsi quelques grands noms de la peinture, en particulier Othon Friez, avec qui j'ai souvent bavardé à Honfleur d'ailleurs, et qui était, comme vous savez, qui a été l'un des grands représentants de l'école du fauvisme. J'ai d'ailleurs conservé ici quelques vues d'Honfleur, peintures et dessins de mon beau-père. Je ne résiste pas, donc, disons, au plaisir de vous les montrer. Nous avons là une vue qui montre en quelque sorte le chenal qui conduit au port d'Honfleur. Alors, ça n'est pas une peinture, c'est une étude, c'est une simple étude, mais elle a le mérite, je crois, de montrer déjà la sensibilité très particulière qu'avait mon beau-père, dont le tracé en matière de dessin, comme on va le voir, était également très très fin. Voici d'ailleurs un dessin qui montre le clocher de l'église Sainte-Catherine qui se trouve presque sur la place du marché, une église qui est entièrement en bois, qui date du XVe siècle et qui est tout à fait étonnante, comme vous le voyez, par évidemment le dôme qui la surplombe. On a là un autre dessin extrêmement fin qui montre un autre bâtiment de là, j'avais d'ailleurs une flèche, je crois que je vais pouvoir m'en servir, qui montre un autre, ce bâtiment qu'on appelle la Lieutenance et que connaissent bien tous les touristes. Alors c'est une ville qui est évidemment parsemée de cafés, d'hôtels, de restaurants en tout genre, et j'en passe et des meilleurs. Donc, comme je l'ai dit, j'ai longtemps flâné dans ces rues, rêvant, je dois dire, à l'avenir, en un temps qui était tout de même très particulier, puisque nous étions en 1900, fin 38, début 1939, au moment de ce qu'on a appelé, si je puis dire, la drôle de guerre, qui n'était malheureusement, qui n'est pas devenue si drôle que ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et plus tard, déjà, comme je l'ai dit, j'ai fait donc la connaissance d'un certain nombre de peintres. Si je m'en porte maintenant, disons, à plusieurs années en avant, c'est-à-dire après la guerre, en 1946-47, il se trouve que j'ai également fréquenté un très grand nombre de peintres, puisque j'ai vécu quelque temps dans ce qu'on appelait la Cité des artistes, qui était une énorme bâtisse nouveau style, qui était située rue Ordenaire, donc dans le quartier de Montmartre. Et là, j'ai fait évidemment, on côtoyait presque tous les jours la vie et l'activité d'un véritable phalanstère de peinture. Et il n'était pas rare d'ailleurs que, comme j'étais docteur en biologie, les gens me prennent pour un médecin et que les voisins me demandent d'ailleurs des consultations. Beaucoup plus tard d'ailleurs, donc je me suis un peu essayé moi-même au dessin, j'ai fait un peu de dessin à la plume, du dessin rehaussé, pas mal, me disait mon beau-père, pas mal du tout même, mais j'ai finalement un peu renoncé parce que il était évident qu'il fallait là s'investir bien davantage. Et beaucoup plus tard, dans le milieu des années 70, c'est la musique qui m'a attiré, ce qui n'a rien d'étonnant, parce que la plupart des intellectuels sont gens qui vibrent en quelque sorte à la résonance musicale, J'en connais peu qui ne soient sensibles à la musique classique en particulier. Mais moi, je me suis passionné à ce moment-là pour la biographie des grands musiciens, au point que j'ai fait des études biographiques et France Musique m'a demandé d'ailleurs de participer à plusieurs émissions sur Stravinsky, Prokofiev, Bartok, Gustave Mahler et j'en passe, alors que je m'occupais par ailleurs de l'Institut Pasteur. J'ai donc eu toujours, et c'est un petit peu mon entrée en matière, excusez-moi de parler de moi, une affinité toute particulière pour la peinture, mais aussi pour la musique. Mais passons, tout cela, évidemment, ça relève du dilettantisme. Pourtant, il est très connu que la plupart des scientifiques, quelle que soit leur discipline, ont été tentés soit de s'adonner à l'art avant de faire la recherche scientifique, soit de pratiquer carrément le métier d'artiste en même temps que le métier de chercheur. Tant l'art et la science répondent souvent aux mêmes, au fond, aux mêmes motivations premières, dirais-je. Nous y reviendrons dans une minute. Prenons un exemple fameux, celui de Louis Pasteur. Voici un portrait qu'il a exécuté à l'âge de 13 ans, le portrait de sa mère. Malheureusement, je ne l'ai pas ici en couleur. Et qui est un portrait qui réellement pourrait refléter l'œuvre d'un professionnel de la peinture. Voici celui qu'il a fait 2 ans après de son père. Les deux portraits d'ailleurs figurent dans le musée de l'Institut Pasteur. En fait, Louis Pasteur se voulait devenir portraitiste. Il était connu dans toute la région, pas seulement pour tirer le portrait, comme on disait vulgairement, mais en même temps parce qu'il voulait en faire sa carrière. Il a voulu entrer aux Beaux-Arts. Son père s'y est en quelque sorte violemment opposé, estimant qu'à l'époque, ce n'était pas un métier pour un jeune homme. On peut songer au retard qu'aurait pris la microbiologie moderne et l'essor de la vaccination si son père n'avait pas justement pris cette attitude, au demeurant un peu contestable vis-à-vis de son fils. Plus près de nous, François Jacob et André Lvoff se sont très sérieusement adonnés à la peinture, au point que lorsqu'il a fait sa dernière conférence, je m'en souviens, lors d'un colloque auquel j'ai participé, André Lvoff m'a dit « C'est fini, je ne m'occupe plus de science, désormais je me consacre entièrement à la peinture » et c'est ce qu'il fit. Quant à Monod, avant de partager le prix Nobel avec précisément François Jacob et André Lvoff, eh bien, il s'était adonné puissamment à la musique. Il était chef d'orchestre, il était violoncelliste, et au point qu'une anecdote court à son sujet, dans les années, je crois, 35, 36, je ne sais plus exactement, il a reçu une bourse de la Fondation Rockefeller pour aller étudier la génétique chez le plus grand spécialiste de l'époque, qui s'appelait Thomas Morgan, qui travaillait à Pasadena, sur la côte ouest des États-Unis. Et on ne l'a jamais vu au laboratoire. Il a passé une année, en quelque sorte, à donner des concerts, à participer avec des amis à des soirées musicales, de sorte qu'il a été convoqué à son retour à Paris par l'administration de la Fondation Rockefeller, qui lui a dit ceci: « Il est clair que vous ne ferez jamais rien de bon en biologie », ce qui ne l'a pas empêché, donc 30 ans plus tard, de devenir le grand biologiste que l'on sait et de devenir prix Nobel, de diriger l'Institut Pasteur, et j'en passe. Alors, il vient après cette représentation de Monod, tout à fait par hasard, parce qu'on s'est trompé dans l'ordre des projections, la photographie, si je puis dire, le portrait de Franz Schubert. Alors, on peut se demander ce que ça vient faire ici, c'est tout à fait incongru, et en réalité, on peut dire qu'il y a une communauté avec Monod dans la mesure où Schubert était un remarquable compositeur de musique de chambre. Et en même temps, j'ai pensé que peut-être ça pouvait représenter une petite touche de romantisme avant le côté assez austère des choses dont je vais vous entretenir. Mais au préalable, on peut se poser la question: pourquoi cette affinité si fréquente des scientifiques pour l'art, qu'il s'agisse de peinture ou de musique ? On peut se demander d'une manière un peu plus sérieuse et plus fondamentalement parlant si la découverte scientifique elle-même n'implique pas une sorte de conscience, de recherche plus ou moins consciente du beau, de l'esthétique en tout cas. Un de mes confrères, collègue Yves Christen, qui a parlé ici même il y a environ 5 années, je crois, citait à ce propos, disons, quelques lignes qui émanaient d'un traité d'Henri Poincaré, que je ne peux manqué de vous redire. On peut s'étonner, écrivait-il, de voir invoquer la sensibilité à propos de démonstrations mathématiques qui, semble-t-il, ne peuvent intéresser que l'intelligence. Ce serait oublier le sentiment de la beauté mathématique, de l'harmonie des nombres et des formes, de l'élégance géométrique. C'est un vrai sentiment esthétique que tous les mathématiciens connaissent. C'est bien là de la sensibilité. Fin de citation. Mais revenons donc à la biologie. De quoi peut donc parler un biologiste s'adressant à l'Académie des Beaux-Arts ? De toute évidence, d'abord à la biologie, évidemment, de l'esthétique. Mais c'est ce qui fut précisément fait, comme je l'ai dit il y a 5 ans, par mon prédécesseur à cette tribune, à savoir Yves Christen, qui a parlé donc de la neurobiologie, en quelque sorte, de l'esthétique, de façon d'ailleurs tout à fait brillante. Il s'est intéressé donc à regarder quelles pouvaient être les aires cérébrales qui se trouvaient activées au cours de l'émotion esthétique, à la fois celle que produit la vision de la nature, par exemple, mais aussi la composition, si je puis dire, des novos, qui sort en quelque sorte du cerveau du peintre. Vous savez, bien sûr, toutes et tous, qu'aujourd'hui, grâce aux techniques de l'imagerie, on peut faire des choses assez étonnantes et on peut justement percevoir quelles sont les aires du cerveau qui se trouvent allumées en quelque sorte par telle ou telle pensée, telle ou telle image qui nous impressionne. Mais malheureusement, et contrairement à Yves Christen et à mon confrère Jean-Pierre Changeux, je ne suis pas neurophysiologiste. Ma spécialité me rapproche de choses beaucoup plus, dirais-je, abstraites, à savoir la chimie et la physique, mais aussi la génétique, dont M. le secrétaire d'Autry a bien voulu évoquer tout à l'heure quelques aspects. Alors, certaines des questions que je voudrais discuter sont évoquées ici. Tout d'abord, est-ce qu'il existe des gènes de la sensibilité artistique ? Bon, c'est une question qui peut paraître un peu bébête, mais que l'on est fondé à se poser. Deuxièmement, qu'en est-il de l'esthétique du monde biologique visible, à la fois de la part de ce monde biologique lui-même ou du sentiment du beau que nous éprouvons lorsque nous le contemplons. Deuxièmement et troisièmement et surtout, peut-on discerner une esthétique en quelque sorte intrinsèque à la nature moléculaire au sein du monde vivant ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une symétrie en quelque sorte qui constituerait un principe d'auto-organisation, un principe d'organisation qui serait lui-même à l'origine de la vie ? C'est surtout de cela que je vais parler, mais je voudrais dire au préalable quelques mots des autres questions. La première question, c'est donc, est-ce que la propension à l'art, le sentiment artistique, le goût, la sensibilité au beau sont génétiquement déterminés ? Est-ce que nous avons des gènes ? Est-ce que nous connaissons des gènes qui peuvent justement jouer un rôle important ? Bon, la réponse est évidemment oui, et la réponse est également non. Nous ne connaissons pas ces gènes. S'il existe des gènes, l'arrangement, parce qu'il n'y en a certainement pas un seul, concourt à la sensibilité artistique, à la notion du beau, voire à la création artistique, on ne les connaît pas, en tout cas pas encore. La question qui peut se poser et qui vient immédiatement à l'esprit, c'est y a-t-il une hérédité dans l'expression de l'art ? Alors il vient immédiatement à l'esprit, évidemment, les dynasties de grands musiciens, celles en particulier autour de Jean-Sébastien Bach et de bien d'autres. Mais encore, ça ne nous dit pas pour autant s'il y a des gènes du talent. En tout cas, s'il y en a, on ne les connaît pas. Mais ce qui est important, et ce qui vient encore une fois des neurobiologistes, c'est ceci, c'est que le génie artistique, le talent, la créativité artistique traduisent en réalité un comportement psycho-émotionnel qui est très complexe. Et mon confrère Pierre Buzer, qui est présent dans cette salle, ne me démentirait pas, qui implique beaucoup d'air cérébral, selon justement le type d'esthétique que l'on contemple, soit le cortex orbitofrontal ou médian, soit le cortex pariétal, soit même le cortex moteur. Alors, il est évident que les gènes interviennent au moment de l'architecture, de la construction de ces différentes aires cérébrales, et évidemment, il est très difficile de faire des expériences chez l'animal à ce sujet, et on ne connaît pas non plus, je crois, de maladies neurodégénératives qui, disons, aboliraient très spécifiquement un sentiment particulier de l'esthétique. parle pas du daltonisme, évidemment, ici, une maladie, disons, physique, en quelque sorte, de la vision. Mais là, il faudrait évidemment, comme pour d'autres comportements, pouvoir analyser justement certains syndromes qui découplent en quelque sorte certaines physiologies. La deuxième question se réfère à la perception que nous pouvons avoir d'une esthétique dans la nature, et notamment du monde biologique visible. Là non plus, je n'insisterai pas parce que je crois que c'est aussi un problème d'une grande complexité et que là aussi, là également, Yves Christen en a fait l'analyse au niveau neurobiologique et il a surtout, d'autres avec lui d'ailleurs également beaucoup, Jean-Pierre Changeux, parfaitement analysé ce processus émotionnel qui est à l'œuvre dans la création artistique. Il a rappelé que la perception n'est au fond rien d'autre que l'extraction par notre cerveau de signaux significatifs émanant des objets ou des êtres vivants qui sont perçus, mais qui sont reconstruits, sélectionnés par notre cerveau. C'est une chose que vous savez sans doute déjà. Notre cerveau est un organisme créateur. Il crée, il recrée, il reconstruit. En fait, ce que nous ne voyons pas vraiment, sauf évidemment le voir à plusieurs étages et dans une échelle de temps beaucoup plus longue. Mais ce que nous percevons dans l'immédiat et le sentiment d'esthétique qui peut s'en dégager, justement, provient de l'extraction de signaux à la fois efficaces et attractifs. Donc, il n'en demeure pas moins que lorsque nous contemplons la nature biologique, par exemple les oiseaux, les forêts et même le corps humain, nous sommes sensibles à un certain signal de symétrie. Et c'est à ça que je voudrais arriver avec ma troisième question. Est-ce qu'il existe une esthétique intrinsèque à la nature moléculaire dont sont constitués les êtres et les choses, comme je l'ai dit, cette nature parfaitement invisible? Et poussant l'argument donc un peu plus loin, est-ce que donc cette symétrie, cette régularité moléculaire ne serait pas en quelque sorte à l'origine de tout l'assemblage qui s'est constitué aux frontières de la vie à l'ère prébiotique, c'est-à-dire il y a à peu près 4 milliards d'années? Donc, c'est une question qu'on est en droit de se poser et que se posent d'ailleurs tous les spécialistes en biologie du domaine de l'auto-organisation. Et ce qui aurait engendré la vie, dont on sait que les premiers vestiges remontent quant à eux à 3,5 milliards d'années. Est-ce qu'il y a donc eu un principe de symétrie à la base pour constituer ces assemblages moléculaires? Donc le niveau auquel je vais m'adresser en quelque sorte, et qu'on voit très mal ici, c'est extrait d'un livre de Jean-Pierre Changeux et Alain Cohn qui s'appelle, je crois, le mathématicien neuronal et matière à penser, je crois. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plusieurs étages, évidemment, entre les atomes et l'architecture de notre cerveau, d'Homo sapiens que nous sommes, et qui nous conduisent, évidemment, à un processus d'entendement, de raison et même d'esthétique dans le sens le plus complet du terme. Donc, ce dont je vais vous parler est tout à fait en bas, c'est-à-dire des molécules et des atomes. Alors, la première réflexe que l'on peut avoir lorsqu'on songe aux atomes et qu'on n'est pas spécifiquement versé dans la connaissance biologique, c'est de se tourner vers l'une des molécules qui est aujourd'hui la plus populaire en quelque sorte, à savoir l'ADN. Pourquoi populaire? Parce que tout le monde sait aujourd'hui que c'est le signe de notre individualité génétique et que c'est en même temps la molécule dans laquelle est inscrit le code génétique qui gouverne le fonctionnement de la cellule. Je vais y venir dans un moment. Je n'ai pas résisté à l'amusement de vous montrer les deux découvreurs, James Watson qui est à gauche et qui avait 26 ans à l'époque, Francis Crick qui en avait 32, et qui avec Wilkins et Rosalind Franklin ont donc découvert la structure de la double hélice grâce à des études cristallographiques chez leur fameux patron Lawrence Bragg. Alors, quand on regarde la double hélice, on se dit, ben voilà la solution que la nature a choisie, c'est la symétrie. On a deux hélices qui sont antiparallèles, comme on dit, mais parfaitement complémentaires l'une de l'autre, réunies, vous le voyez, par des espèces de bandes rouges qui sont en fait des liaisons dites hydrogènes, peu importe, qui sont figurées ici, vous voyez. Mais ce qui frappe, c'est la régularité. Régularité qui a été d'emblée, en quelque sorte, un sujet d'admiration, pas seulement de la part des scientifiques, mais du public en général. On a dit, c'est la solution, c'est bien comme ça que la nature, évidemment, se propose. D'ailleurs, voici un modèle, lui, un modèle plein, comme disent les cristallographes, où l'on voit là, les boules représentent des atomes. Bon, l'ADN, en général, tel que nous l'avons dans nos chromosomes, c'est l'ADN sous la forme B, mais il peut prendre d'autres formes, tout à fait un peu atypiques, mais que l'on retrouve aussi dans certaines particularités du génome. Alors on s'est dit, ben voilà, l'ADN, c'est magnifique, ça explique tout, et même les artistes s'en sont emparés, et il y a déjà une quarantaine d'années, on a dit, c'est vraiment le secret de la vie, c'est le symbole même de la science moderne, d'où le titre d'un ouvrage et de cette peinture, la Mona Lisa de la science moderne, comme vous voyez ici. Bon. Et puis, il y a eu d'autres constructions très variées. Ici, par exemple, c'est une construction de plein air qui se trouve à côté du laboratoire, justement, de Jim Watson à Cold Spring Harbor. Donc, on s'est dit, voilà, la vie, c'est la symétrie. Eh bien, justement, le problème, c'est que la vie, c'est justement tout le contraire. Parce que si l'ADN, en effet, est le support du code génétique, il renferme les 25 000 gènes que l'on connaît chez l'homme, un peu moins peut-être chez les micro-organismes, disons 5 000, et il a donc, en sa structure, en alignement des sous-unités que le constituent, en quelque sorte, les éléments pour instruire l'usine cellulaire. En réalité, ce n'est pas lui le véritable moteur de la vie. Le moteur de la vie, en quelque sorte, ce sont, bien entendu, les protéines. Les protéines qui sont connues, évidemment, de très longue date, même avant l'ADN. Les protéines, et comme on va le voir, les acides ribonucléiques, qui sont des cousins germains de l'ADN et qui font pratiquement, si j'ose dire, tout le travail dans la cellule. Et qui le font précisément parce qu'ils se sont complètement démarqués de la symétrie. Ainsi, par exemple, les enzymes qui catalysent notre vie cellulaire, les anticorps qui neutralisent les agents pathogènes, la plupart de nos hormones, la plupart des intermédiaires du fonctionnement neuronal sont, comme vous devez le savoir, des protéines ou des éléments un peu plus simplifiés de protéines qu'on appelle parfois des peptides. Les acides ribonucléiques, comme on le verra, interviennent dans le déchiffrage justement du code génétique. C'est quelque chose à quoi j'avais un peu participé, comme on a bien voulu le rappeler tout à l'heure, mais qui comprend beaucoup d'étapes. Et nous en dirons quelques mots. Mais ce qui est frappant, comme on va le voir, c'est que les structures de la majorité de ces protéines et de ces ARN sont parfaitement asymétriques. La figure suivante, avant d'y venir, illustre l'importance des protéines dans une cellule. Songez que dans une cellule, n'importe laquelle de notre corps, et nous en avons des milliers de milliards, dans une seule cellule, il y a au moins 100 000 types différents de protéines. Je parle d'une cellule, évidemment, d'un organisme supérieur, par exemple de l'homme ou d'un animal. Là, nous avons un tout petit échantillon d'un assemblage de protéines qui ont été étudiées de manière à pouvoir établir les interactions qui existent entre chacune d'entre elles. Vous imaginez le travail fantastique qu'il faut pour essayer, en quelque sorte, de fil en aiguille, si j'ose dire, de reconstituer les interactions entre des milliers de protéines. Ici, c'est un tout petit échantillon de l'assemblage, de l'assortiment protéique qu'on trouve à l'intérieur d'une simple bactérie comme le bacille subtil. C'est vous dire, évidemment, le rôle extraordinaire que jouent ces protéines dans le fonctionnement. Alors, les protéines, il y en a de deux natures. Il y a celles qui sont, je dirais, métaboliquement inertes. Par exemple, les protéines de revêtement, les protéines fibreuses, celles de la kératine, celles du collagène, etc., qui sont donc très régulières et qui ont des formes, justement, comme celle qui est montrée sur cette alpha-hélice, donc parfaitement régulières et probablement donc régulières, sinon symétriques. Mais, précisément, ce qui est important, c'est que pour pouvoir aller vers la catalyse qui a été à l'origine de la vie, il a bien fallu que les protéines adoptent une conformation complexe, tridimensionnelle, irrégulière dans l'espace. Voici d'ailleurs une expérience fameuse. On part en haut à gauche d'une protéine dont on schématise en quelque sorte la complexité. Vous le voyez là, ici. La traite, par exemple, par l'urée pour la dénaturer et toute la charpente dont elle est constituée se déploie. En fait, elle est constituée par un alignement de ce qu'on appelle les acides aminés, mais je ne vais pas entrer dans les détails, avec des groupes soufrés. Et si on ôte l'urée et qu'on dialyse, eh bien, la protéine commence à se replier, puis elle se reconstitue exactement comme elle était au départ. Donc, il y a une conformation prédéterminée dans sa structure. Alors, c'est une bonne chose, d'ailleurs, on le voit là aussi sur des modèles plus complexes et tridimensionnels. On comprend pourquoi, parce que si on examine, par exemple, l'action d'une enzyme comme l'exokinase, qui métabolise le glucose, et Dieu sait si c'est important pour notre physiologie, l'enzyme, vous le voyez, cette espèce d'amas d'atomes tout à fait irréguliers, avec une sorte d'ouverture qu'on appelle un site spécifique. Le glucose est schématisé comme cette espèce de petite boule noire. Et vous voyez que quand l'enzyme se fixe sur le glucose, pour y ajouter un atome de phosphore et le métaboliser, l'enzyme elle-même ou lui-même change légèrement de conformation et il épouse en quelque sorte le contour de la molécule de glucose de façon à la métaboliser. Donc il y a là en effet une complexité tridimensionnelle sans laquelle il n'y aurait pas de site de reconnaissance par les protéines, soit de substrat, soit d'antigène ou d'anticorps, par exemple. Par exemple, nous avons ici un immunoglobuline, c'est-à-dire un anticorps, dont les deux chaînes lourdes sont schématisées ici, dans l'espace, et voilà comment ces deux chaînes embrassent en quelque sorte l'antigène. Et si elles étaient rectilignes, ce serait extrêmement difficile. Il faudrait qu'elles s'enroulent autour et il n'y aurait pas de spécificité. Je n'ai pas résisté non plus au plaisir de vous montrer cet amas moléculaire assez compliqué qui comprend une molécule de cytochrome et plusieurs autres protéines schématisées comme L, M ou H, c'est-à-dire légère, lourde ou moyenne. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit en réalité de l'assemblage moléculaire qui est probablement le plus important au monde, parce que c'est lui qu'on trouve dans les premières bactéries, dites les cyanobactéries, qui étaient les premiers organismes cellulaires caractéristiques. Ce n'étaient pas probablement les premiers organismes vivants, mais les premiers qu'on a pu distinguer, et qui ont été à l'origine de la photosynthèse, qui a permis justement la photolyse de l'eau, avec l'énergie lumineuse captée par cet assemblage, ce qui a permis l'élévation du taux d'oxygène sur la Terre il y a 2,5 milliards d'années et en quelque sorte l'émergence des organismes supérieurs, c'est-à-dire des plantes et des animaux. Donc tout ceci n'est possible que parce qu'il y a à l'intérieur de toutes ces circonvolutions moléculaires et atomiques des sites très particuliers, soit pour capter la lumière, soit pour justement hydrolyser l'eau. Photolyser l'eau. Voici un autre schéma où il s'agit d'une molécule de calmoduline que l'on voit en brun là, qui entoure une autre protéine, laquelle est un transmetteur de d'ions calcium. Et en fait, tout notre métabolisme du calcium réside en quelque sorte dans cet assemblage à nouveau extrêmement bizarre et irrégulier. Un mot des ARN, puisque j'en ai parlé, vous allez vous dire pourquoi c'est important. On voit assez mal d'ailleurs sur cette projection la structure moléculaire d'une molécule d'acide ribonucléique. L'ADN est désoxyribonucléique. L'ADN est donc une double hélice, quelquefois une simple hélice chez certains organismes. Mais ici, vous avez donc un cousin germain parce que c'est aussi un acide nucléique, mais vous voyez qu'il est très irrégulier. Il y a des boucles, il y a des portions en double hélice, etc. Qu'est-ce que c'est que cet ARN ? C'est un ARN qui est extrait des petites particules qu'on trouve dans la cellule, qu'on appelle des ribosomes. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'il joue un rôle capital dans la synthèse des protéines elles-mêmes. Il a donc une activité catalytique. Du coup, il agit un peu comme une enzyme. On a appelé ces ARN des ribozymes. En voici d'ailleurs, je crois, un autre, qui est un ARN de transfert, vous voyez, également très irrégulier, qui joue un rôle très important dans le décryptage et déchiffrage du code. Alors, ces ribozymes, ils sont d'une importance colossale. Pourquoi ? Parce qu'on sait, on suppose aujourd'hui que les ribozymes ont été les toutes premières molécules qui sont apparues à la surface de la Terre, probablement il y a dans les 4 milliards d'années, les premiers assemblages qui étaient doués d'activité catalytique, qui étaient capables donc non seulement éventuellement de se reproduire en partie, mais en même temps de catalyser des réactions avant que n'apparaissent les protéines complexes dont nous avons vu tout à l'heure quelques exemples, et l'ADN lui-même, l'ADN qui est dérivé de l'ARN par une oxygénation du sucre que contient l'ARN et qui a été évidemment conservé par la suite parce qu'il stockait d'une manière beaucoup plus stable l'information génétique qui était incluse dans les ARN. Donc, la conclusion de ce petit voyage à travers les molécules, c'est que, en fait, le problème, et d'ailleurs il a été lui-même évoqué d'une façon un peu particulière par d'autres artistes, en particulier par Jean Cocteau, qui a dit justement que ce qui est beau, c'est l'asymétrie, c'est une asymétrie boiteuse. Eh bien, c'est un peu la même chose en biologie. Vous voyez que c'est l'asymétrie, avec un L apostrophe, qui est probablement qui a été à l'origine de l'évolution moléculaire qui a fait la vie. Alors évidemment, vous avez vu qu'il y avait aussi des protéines qui, elles, sont régulières. Elles sont confinées dans un rôle de revêtement et l'ADN lui-même est parfaitement incapable de catalyser quoi que ce soit. Donc, il ne peut être actif que dans la mesure où lui-même est lu, traduit par des protéines ou d'autres ARN. Pour terminer, revenons à des choses peut-être plus philosophiques, si vous voulez. Bon, je me suis demandé, justement, comme d'autres, et je ne suis pas le premier, bien entendu, quelles pouvaient être les similitudes ou les différences dans les démarches qui, évidemment, nourrissent l'approche à l'art et à la science. Et d'abord, je crois, personne ne dira le contraire, qu'il y a une sorte d'aventure ancrée dans les deux démarches. Pourquoi ? Parce que, au fond, le peintre, même s'il copie la nature, il ne sait pas encore ce que ça va donner sur sa toile. Bon, évidemment, il a une volonté de reproduire à l'époque ou, d'improviser quelque chose de tout à fait neuf. Et Dieu sait si la peinture moderne, d'ailleurs, repose très souvent beaucoup plus sur l'improvisation abstraite que sur la copie de la nature. Mais les deux, d'ailleurs, peuvent se rejoindre. Et comme l'avait dit, d'ailleurs, je crois, le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, il n'y a pas que la reproduction, disons, extérieure de la nature, il y a en même temps une sorte de projection de l'émotion morale, en quelque sorte, qui est en nous, du sentiment, en quelque sorte, même de l'esthétique. Donc, pourquoi la recherche ? Parce que ni l'artiste ni le scientifique ne savent au départ sur quoi vont déboucher leurs démarches. La recherche est évidemment leur caractéristique commune, je crois. Mais il y a tout de même quelque chose qui distingue, et là, il faut le prendre avec justement une certaine précaution, qui distingue la recherche du scientifique de la recherche de l'artiste. Quand l'artiste produit une œuvre, qu'elle soit musicale ou qu'elle soit picturale, cette œuvre, c'est lui qui est dans cette œuvre. En quelque sorte, elle est fortement individualisée. Même s'il copie la nature, elle l'est. Parce qu'aucune œuvre à ce moment-là ne pourra, en quelque sorte, être substituable à une autre. Donc, elle a le signe, en quelque sorte, la signature de son individualité. Elle est entière. Elle est ce qu'elle est, mais elle est complète. Alors que la recherche du scientifique, en fait, et je parle ici du scientifique dans sa connotation, dans sa conception dite de chercheur fondamental, vise à découvrir justement les lois de la nature. En fait, une fois qu'il a découvert ses règles, ses lois, ses équations, ses formules, en fait, bon, ça appartient à quoi ? Ça appartient à la vie scientifique elle-même, ça nous appartient à tous. C'est quelque chose qui n'est plus tellement lui. Sa personnalité finit par se diluer complètement. Ce qui ne veut pas dire que le parcours qu'il a rempli pour y parvenir, celui de la découverte en particulier, n'est pas signé justement d'un certain talent particulier. Dieu sait si personne n'oublie Newton ou Einstein. Mais une fois que l'œuvre est créée, elle est créée, elle peut être d'ailleurs parfaitement remise en cause, elle n'est pas non plus définitive, mais de toute manière, elle devient quelque chose qui n'est plus tellement l'auteur lui-même. Donc, d'une certaine façon, et ce serait là ma conclusion, je crois qu'on peut dire que, au fond, de ce point de vue, l'art a quelque chose de plus que la science. L'art se suffit à lui-même. L'art est même un peu peut-être au-dessus de la science. Mais je crois, mesdames et messieurs et chers confrères, que J'espère vous avoir montré que l'art et la science sont tout de même inséparables, très proches dans leur motivation. Nous en avons follement besoin et j'espère que, d'une certaine façon, ils ne se sépareront jamais.
Vous venez d'entendre l'académicien François Gros, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences, dans une communication intitulée « La biologie, l'art et les molécules » prononcée le 7 décembre 2011 à l'Académie des beaux-arts.